Gardo Silence et Masque Cible. Pour moi, c'est Papa Lambert. Je suis le chargé de suivi et localisation des gorilles au Parc national de Kahuzi-Biega. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes avec nos gorilles ici. Je crois qu'on va marcher dans une forêt secondaire où nous sommes déjà à 2000, presque 200 et quelque chose mètres d'altitude. On descend un peu et puis on rencontre les gorilles. Nous avons les deux bébés là.
RFI.
Il y a Monsieur Wilungu là et Monsieur Deschpliver.
Grand reportage.
Ces forêts sont des capteurs essentiels de carbone. Elles sont également l'habitat d'une faune et d'une flore exceptionnelles. La RDC est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Dans l'est du pays, dans le parc du Kahuzi-Biega, vit une espèce de gorille menacée d'extinction. Mais traditionnellement, ce site protégé est également le lieu de vie de communautés locales, les Batois, dépendants de la cueillette et de la chasse. La sanctuarisation de la forêt les a relégués en lisière du parc, dans un extrême dénuement. Forêt protégée, quel avenir pour les pygmées? C'est un grand reportage de Charlotte Cosset.
La forêt est dense, il est difficile de progresser, la végétation s'agrippe aux vêtements.
Mais en fait, les gorilles se sont désimés comme nous. Quand ils sont dans la nature, pour moi, je n'aime pas qu'on les dérange, puisque je les considère comme ma propre famille.
Bottes aux pieds, parka verte et casquette vissée sur la tête, Papa Lambert avance, lui, avec aisance. Il mène avec fierté les touristes à la découverte des gorilles dans le parc du Kahuzi-Biega.
Tranquille, s'il vous plaît. Il n'y a pas de soucis, faites des photos, restez là.
Devant nous, les gorilles s'affairent à cueillir branchages et feuilles à leur goût. Les bébés sont joueurs, ils font des roulades pour leurs visiteurs. Le parc national du Kahuzi-Biega est créé en 1970. Riche d'une flore et d'une faune exceptionnelles, le PNKB est notamment l'habitat du gorille des plaines de l'Est, le gorille de Grauer, une espèce en danger critique d'extinction. En devenant une aire protégée, le parc, selon la loi congolaise, est désormais sanctuarisé. Un lieu où il est interdit de pénétrer, circuler, camper et séjourner. De Dieu Biaombe est le directeur du parc du Kahuzi-Biega. Il porte une barbe blanche qui lui donne un air de ressemblance avec l'ancien président Kabila. Ce matin, il reçoit la visite du directeur général adjoint de l'Institut congolais pour la conservation de la nature.
Mon directeur général, je laisse la troupe à votre disposition. Plus rien.
Le directeur et son équipe d'environ 300 éco-gardes sont en charge de faire respecter la loi dans le PNKB.
Nous sommes en train de faire une conservation dans une zone, on ne sait pas dire post-conflit, puisque les conflits sont encore là. Et nous savons que beaucoup de bandes armées cherchent des cachettes dans les milliers qui sont encore intacts. Et ce sont les aires protégées. Et ils cherchent à se ravitailler en armes et munitions et souvent ils font l'exploitation ou la destruction de ces aires protégées pour renforcer leurs activités, détruisent la forêt, ils font l'exploitation minière et tout ça c'est pour renforcer leur capacité de nuisance. Et tout ça c'est la plus grande difficulté pour la conservation aujourd'hui à l'est de la RDC.
Mais historiquement, dans cette forêt vivaient également des communautés pygmées, les Batois. La création du parc a conduit à leur expulsion.
On nous a obligés à quitter le parc et rester en dehors du parc sans mesure d'accompagnement, sans consultation, sans aucun moyen de survie.
Dieudonné Akilimali est le directeur dans la région du programme intégré pour le développement des peuples pygmées, le PIDEP.
Et voilà que les conditions actuelles des peuples autochtones sont toujours déplorables. Et ça fait à ce qu'il y ait toujours des remous, des soucis, des revendications. Actuellement, les peuples autochtones ont été contraints à mener une vie sédentaire quand bien même ils n'ont pas de terre. Quand on parle de la pauvreté, nous ne connaissons pas cette notion. Puisque avec notre mode de vie, on faisait tout, on était à l'aise, on faisait la chasse, on pouvait faire des mouvements partout, par-ci, par-là. Puisque chez nous, la notion de terre n'existait pas. On pouvait faire des mouvements partout où on veut. Et là, on ne se reprochait pas de la pauvreté. Maintenant, avec les conditions limitées aujourd'hui, et c'est maintenant qu'on comprend que ce mot aussi existe.
Survivre pour les pygmées devient compliqué.
Pour survivre économiquement, c'est vrai, il y a la plupart des peuples autochtones qui font des travaux. Ils font les services. Services pour la survie. Donc, ils vont dans des plantations de privés. Et ils font un petit travail là-bas et puis on lui donne un petit rien par jour. Bon, il y a des petits lopins que les chefs traditionnels ont donné qui ne sont pas tellement suffisants. On essaie un peu d'y appliquer l'agriculture, quand bien même ça ne satisfait pas les besoins tels qu'attendus par la communauté. Grosso modo, c'est comme ça. Donc, vous rendez service et puis vous donnez la contrepartie, soit à manger.
Et Dieudonné Akilimali le concède, les tentations sont nombreuses.
Le braconnage, oui, il y a. On ne peut pas ne pas reconnaître ça. Ça arrive des fois que le peuple autochtone s'autorise d'entrer illégalement dans les parcs. Mais ce n'est pas tellement régulier puisque c'est illégal. Puisque une fois attrapé par les éco-gardes, vous êtes emprisonné. Donc ce n'est pas vraiment une source d'économie ou source de survie.
La forêt est source de convoitise. Sa faune, son bois et ses mines sont promesses de richesse et appâtent de nombreux acteurs, locaux, exploitants et hommes armés. Pour la déforestation, le directeur du PNKB pointe du doigt la coupe de bois pour la fabrication de charbon.
Les communautés autochtones pygmées, ils ont déforesté 450 hectares qui étaient vraiment rendus en terrain de football. Et là, on ne pouvait pas accepter de perdre toute cette bande de forêt au nom de la protection du peuple autochtone pygmée. J'ai parlé de l'instrumentalisation. À l'origine, nous savons que ce sont des forestiers. Ils doivent protéger la forêt. Mais quand vous voyez que le peuple autochtone pygmée commence à détruire la forêt, non, ce ne sont plus eux. C'est eux qui se présentaient devant, mais derrière eux, il y avait des bantous qui faisaient ces activités. Il y avait des groupes armés même qui se ravitaillaient derrière les pygmées. Et nous, quand nous avons compris tout ça, nous sommes dit non, il faut mettre tout le monde dehors. Et c'est comme ça que vous pouvez visiter les parcs, il n'y a pas de coups de balle.
De son côté, Dieudonné Akilimali confirme la manipulation dont peuvent faire l'objet certaines familles de pygmées.
Les autres communautés, les bantous, les exploitants forestiers, en ont profité avec la présence des peuples autochtones pour pouvoir maintenant exploiter le bois au nom et sous la couverture des peuples autochtones.
C'est ce qu'on appelle « ourera ». De base.
La situation sur le terrain est donc complexe. Les trafics et manipulations nombreuses, ce qui concourt à la récurrence des tensions. En 2018, plusieurs familles autochtones excédées décident de se réinstaller dans le parc Dieudonné Akilimali.
En 2018, une partie des peuples autochtones a trouvé utile de rentrer encore dans le parc pour contraindre le gouvernement congolais à les remettre dans leur droit, à trouver d'autres espaces. Et jusqu'à présent, il y a plus de 60 familles du côté de Calais et Bougamanda qui sont encore dans les parcs. Et là, vous comprenez que les relations ne peuvent qu'être tendues entre éco-gardes et le peuple autochtone qui sont dans les parcs.
Pour Lara Dominguez-Rush, avocate pour l'ONG britannique Minority Rights Group, cet acte relève de la nécessité.
En 2018, compte tenu des conditions extrêmement désastreuses qu'ils ont rencontrées à la périphérie du parc, l'extrême pauvreté, la malnutrition, le manque d'accès aux ressources de base et aux moyens de subsistance, un groupe de la communauté a décidé de retourner dans le parc et de se réinstaller sur leur terre ancestrale. La superficie du parc dont nous parlons est de 30 km² sur un total de 6000 km². La zone ancestrale revendiquée est une zone relativement petite.
Une vision que ne partagent pas les autorités de Dieu Biaombe, le directeur du PNKB.
Quand il y a des inciviques, des groupes armés, les braconniers qui mettent des bivouacs ou des cases pour s'abriter, la première action quand il y a des patrouilles, c'est effacer d'abord ces bivouacs. On brûle tout ce qui est comme campement et on les met dehors. Oui, c'est, en tout cas, au niveau international, on a toujours voulu montrer qu'il y a des villages dans les parcs. Il n'y a jamais de villages dans les parcs. Et les éco-gardes ont été pointés du doigt, oui. C'est leur travail de ne pas accepter qu'il y ait des présences humaines qui soient en train de détruire les parcs. La lutte anti-braconnage, c'est celle-là aussi. Essayer de mettre hors les parcs tout ce qui détruisent.
Mot, pied. Centre, portée, arme.
En novembre 2021, à la suite des événements sécuritaires à Bukavu, une opération militaire est menée dans le parc du Kahuzi-Biega. Dieudonné Akilimali, représentant des Batois.
L'opération était motivée par la poursuite des rebelles qui ont pris la fuite dans le parc. Et dans le parc vivait aussi le peuple autochtone. Pour moi, j'ai compris que c'était aussi une opportunité pour le parc d'assainir les sites. C'est ça, moi, mon analyse personnelle. Ça doit être ça, la motivation, comme ça. On brûle les cases et puis on trouve une solution pour le peuple autochtone à en profiter une fois pour toutes.
Selon un rapport interne des Nations Unies, suite à cette opération, plusieurs milliers de personnes sont déplacées, de nombreuses habitations et structures incendiées. Pour Minority Rights Group, cette opération n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans son rapport « Purger la forêt par la force », l'ONG dénonce de nombreuses violations des droits de l'homme qui auraient été commises par les éco-gardes contre les populations autochtones.
Au cours des 3 années, nous parlons de 3 opérations. Le parc a mené cette campagne de violence organisée de manière conjointe entre l'unité paramilitaire des gardes du parc et les FARDC ciblant les villages civils. Et dans ce processus, ils ont tué plusieurs civils batois. Notre rapport documente au moins 20 personnes qui ont été tuées. Il y a aussi eu le viol collectif d'au moins 15 femmes batois. Et au fur et à mesure que les opérations progresse dans le temps, le degré de violence est de plus en plus important afin de terroriser les civils pour qu'ils ne retournent pas dans le parc.
Une vision partielle selon le directeur du parc.
Je peux dire qu'il y a une famille qui travaille avec le groupe armé, travaille dans l'exploitation minière. Et nous avons même des preuves que cette famille est en train de prendre même les armes maintenant à côté des groupes armés. Ce sont des gens qui cherchent le financement et qui veulent montrer non, les gardes-parcs ont violé. Ce sont des mensonges. Moi, j'ai déjà travaillé dans beaucoup d'aires protégées au Congo. Je n'ai jamais entendu les pygmées avec des armes de guerre, pas des armes de chasse, des armes de guerre. Et ça, ce ne sont plus les pygmées, madame, ce sont des groupes armés.
Des violences que Minority Rights Group n'est pas la seule à dénoncer. Ces dernières années, différentes organisations ont alerté sur les violations dont font l'objet les populations autochtones. De son côté, la direction du parc a répondu au dernier rapport de l'organisation britannique dans un long communiqué. Elle y dénonce de nombreux mensonges et insiste sur la volonté de salir l'ensemble des acteurs sur le terrain. Suite à ce rapport, une enquête a été ouverte sur instruction du directeur de l'Institut congolais pour la conservation de la nature.
Absolument.
Ouais, mais 10 heures pile. Il nous reste encore quelques affaires.
Ces dernières années, pour tenter d'apaiser la situation, des discussions ont eu lieu. Une feuille de route établie. Les autorités ont initié différents projets pour aider les anciens locataires du parc, explique de Dieu Biambé.
C'est un peuple qui est dans une transition de la vie nomade à la vie sédentaire. C'est tout un processus. Et pour leur survie, nous pensons que nous devons réellement les accompagner. Oui, c'est ce que je connais et ce que j'ai toujours décrié, c'est que nous avons créé un blocage à l'accès aux ressources. Et en créant un blocage, on doit certainement mettre en place les alternatives pour leur survie. Ce sont des humains. Nous scolarisons bien sûr, nous donnons des semences, nous devons chercher des terres aussi pour eux, pour les accompagner dans l'agriculture, pour les accompagner dans une vie vraiment sédentaire et stable.
Différents partenaires internationaux interviennent dans ou à la périphérie du parc, notamment des organisations américaines et allemandes. Ce jour-là, c'est une équipe de l'Agence française de développement qui a fait le déplacement. Dans la salle de réunion du parc, EcoGuard, partenaires déjà investis mais aussi représentants pygmées, discutent autour d'une table.
Merci d'abord, au nom de la directrice générale après qui est là, de vous accueillir.
Je suis Pascal Iragi, je ne suis pas de ces organisations accompagnatrices. Je suis pygmée et je suis ici comme Umoja wa Mbuti. En tout cas, les pygmées ne sont pas des destructeurs, comme d'auxquels pensent. Les pygmées, ce sont les premiers conservateurs. Les pygmées, actuellement, et Kaouzi Biega, nous sommes comme un époux-épouse.
Ah, c'est pas mal.
Ça marche.
Pascal Iragi est venu parler aux potentiels partenaires français. À cœur ouvert, il souhaitait partager les préoccupations de sa communauté.
S'il y a des appuis directement des pygmées, en tout cas, passez par nous. Si on travaille pour soi, pour son intérêt propre, je crois qu'on va mieux faire. Parce que peut-être, je prends un exemple, excusez, directeur Deo, il est bantou. Est-ce que vous pensez que si l'enveloppe arrivait au compte des pygmées, ces bantous, entre guillemets, va faire arriver à ces pygmées toute cette enveloppe?
En tout cas, c'est... Il n'y a pas d'enveloppe.
Non, c'est un exemple que je donne. C'est un moment pour nous de s'exprimer.
Merci beaucoup pour votre accueil.
L'AFD est actuellement en train d'étudier un possible engagement dans le PNKB.
De notre ambition, de l'état d'esprit.
Rémi Rioux, le directeur de l'AFD, a fait le déplacement. Il se dit conscient des problématiques.
Je ne parle pas d'aide, hein. Je pense que je parle plutôt d'investissement solidaire dans une forme d'intérêt mutuel, reconnu, accepté, qui crée du lien finalement entre nos deux pays, entre nos deux régions. On réfléchit à investir 10 millions d'euros dans ce parc de Kahuzi-Biega, en y amenant bien sûr notre regard, notre exigence sur notamment le lien avec les peuples autochtones, la protection, la sécurité, et que ça crée, oui, aussi des revenus pour les populations. Longtemps, on a vécu dans un monde de conservation où il fallait fermer, et parfois mettre les populations en dehors, et ça a créé des troubles. On est dans des choses maintenant plus fines, où on cherche à concilier protection de la nature, de la biodiversité, et oui, intérêts sociaux, intérêts économiques des populations qui vivent autour du parc.
Une intervention extérieure pas toujours perçue comme bénéfique par les ONG, Lara Dominguez-Roche de Minority Rights Group.
Ce que ce rapport documente, c'est le soutien continu des donateurs internationaux. Ces donateurs internationaux qui ont échoué à être à la hauteur de leurs obligations en matière de droits de l'homme et ont continué à financer le parc malgré la connaissance des violations imminentes et continues des droits de l'homme qui visent une communauté autochtone sur sa terre ancestrale. Cela devrait donc inciter tous les donateurs du monde, tous les gouvernements du Nord et la France en particulier, à sérieusement repenser le financement du PNKB, mais aussi repenser sérieusement son approche de la conservation.
Pour cette ONG britannique, comme d'autres organisations, c'est l'approche générale des aires protégées qui devrait être repensée, ce concept né au XIXe siècle aux États-Unis.
Il s'agissait de soumettre et d'expulser les peuples indigènes de leurs terres au nom de la conservation, sans reconnaître les milliers d'années pendant lesquelles les communautés indigènes ont sauvegardé leurs terres. Et au cœur de ce modèle se trouve une vision coloniale de la terre. Qui obtient la propriété des terres et quel usage de la terre est protégé par la loi? Et donc, les États ont hérité de ce système après les indépendances. En Afrique en particulier, la conservation, ces parcs nationaux, safaris, etc., sont une grande source de prestige pour les gouvernements, mais aussi de revenus en termes d'écotourisme, etc. Et donc, dans ce sens, c'est le même système qui a été hérité et c'est la même non-reconnaissance des communautés par le gouvernement de la RDC, mais aussi du Kenya ou de l'Ouganda.
Un modèle de conservation au détriment des habitants historiques de ces parcs, dénonce-t-elle.
Le rôle que les peuples indigènes ont eu dans la sauvegarde de l'environnement commence à être reconnu. Et pourtant, lorsque les donateurs internationaux de la conservation, et en particulier les gouvernements du Nord industrialisés, qui sont en grande partie responsables à la fois de la crise climatique et de la crise de la biodiversité à laquelle nous sommes confrontés, et pourtant donc, ils rencontrent divers problèmes graves, au lieu d'approcher les communautés qui savent comment vivre en symbiose avec leur environnement, au lieu de cela, ils insistent pour les expulser de leurs terres et dire « Non, 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 nous savons mieux !»
Papa Lambert, guide au Kahuzi-Biega depuis 25 ans, fait son travail avec passion. Son rêve, voir les gorilles et plus largement le parc, enfin hors de danger.
Ok, je remercie beaucoup le DGA du fait qu'il ait l'opportunité de vous amener ici au parc national de Kahuzi-Biega, en fait que vous puissiez palper la réalité du travail que nous sommes en train de faire. Par rapport aux recommandations de l'UNESCO avec les trois successives guerres, nous sommes en progression, nous sommes presque à 90% de répondre aux recommandations. Puisque notre grand souci, c'est de quitter le site du patrimoine mondial en péril et remonter sur la liste normale du site du patrimoine mondial. Et nous devons tous interpeller notre conscience, tant nationale qu'internationale, en fait de sauvegarder sa biodiversité sur le plan de la faune et de la flore. Alors le Kahuzi-Biega, en fait, ce n'est pas l'intérêt des rangers seulement, ce n'est pas l'intérêt des Congolais seulement, c'est pour l'humanité entière.
Forêt protégée, quel avenir pour les Pygmées ? Un grand reportage de Charlotte Cosset, réalisation Pauline Leduc.